Je veux le remercier pour chaque personne ici. Je voudrais vous dire merci aussi. Je vous aime de tout mon cœur. Et cette année 2013 est encore une année pleine de défis. Nous allons les relever, n'est-ce pas? Et nous allons encore vivre des choses belles avec le Seigneur. Merci aussi, bien sûr, au Seigneur. Nous ne devons pas l'oublier. Merci à Jésus parce qu'il nous a soutenus, parce qu'il nous a guéris, parce qu'il nous a délivrés, parce qu'il nous a conduits. Merci d'avance pour 2013 parce qu'il va refaire la même chose. Dieu est fidèle, il ne manque pas sa parole et il sera encore là avec toi et moi durant l'année 2013. Et nous voulons donc vraiment de tout notre cœur dire à Jésus, et ça vient du fond du cœur, merci Jésus. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Du 27 décembre au 2 janvier 2013, nous avons eu un camp avec les jeunes, un camp de ski. On avait eu un petit arrêt pendant 2-3 ans, je pense, et puis on est reparti sur les pistes de ski, malgré que cette année, la moitié des jeunes n'ont pas forcément été sur les pistes de ski. Alors je leur ai demandé, mais pourquoi vous êtes venus alors? On est venus pour les soirées. On est venus parce qu'on veut vivre quelque chose avec Dieu. Et ils ont vécu des choses avec Dieu. Le thème était la gloire de Dieu. Et nous avons vu la gloire de Dieu. Et je sais aussi que beaucoup ont prié pour ce camp. Et c'est pour ça que j'ai demandé à deux jeunes rapidement de donner un petit témoignage. Vous êtes d'accord? Aussi pour vous encourager, vous qui avez prié aussi pour ce camp de ski. Je demanderai à Jess, ils croyaient que je n'avais peut-être pas leur demander comme j'ai commencé à prêcher. Jessica et puis aussi Sylvain. Juste courtement, ils vont faire ça en 2-3 minutes. Ça fait partie aussi de mon introduction.
Bonjour à tous. Moi, j'ai pu voir la gloire de Dieu, en fait, le 31. J'ai vécu un repos dans l'esprit. Le message portait sur demeurer dans cette gloire qui nous permet d'entendre Dieu nous parler. Et je m'attendais à Dieu cette soirée parce que j'avais des questions sans réponse. Et le Seigneur m'a parlé à 3 reprises. Il a enchaîné les réponses. Et la première venait de la part de Ricardo, la deuxième de Michel et la troisième d'Anna, d'être cuisinière. Et moment où elle a prié pour moi, c'était la prière que j'arrivais pas à élever au Seigneur. Y a une puissance qui m'a envahie et qui m'a fait tomber. Et j'ai commencé à pleurer, j'arrêtais pas de pleurer. Ma prière était les larmes qui coulaient. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'avais l'impression qu'une minute s'était écoulée alors que ça faisait 1h30 que j'étais dans la présence de Dieu. Et j'étais complètement déconnectée de ce monde. Et j'étais vraiment... quand j'ai salué les jeunes pour qu'on se souhaite la bonne année, on m'a dit d'un autre visage. Et c'est vrai parce qu'en fait, depuis, j'ai une paix intérieure que je ne peux pas expliquer. J'ai tout le temps de la joie, même dans les moments difficiles. Et j'étais quelqu'un de très anxieuse. Et je prenais même des anxiolytiques et je ne les prends quasiment plus. Donc, je veux rendre gloire à Dieu pour ça.
Bonjour à tous. Pour moi, c'était aussi... Enfin, le thème, c'était la gloire de Dieu. Et j'ai vraiment pu la vivre le deuxième soir, en fait. Ça fait un an que je vais au groupe de jeunes. Et c'est vrai que j'allais, mais sans trop me donner vraiment à Dieu. Et puis, je suis parti un peu sur un coup de tête à ce camp, en me disant qu'il fallait vraiment que je passe en cap. Et j'ai prié pour ça. Le premier soir, on a prié avec Michel et Simon pour que je puisse vraiment m'abandonner complètement à Dieu. Puis j'avais cette image qui revenait tout le temps, de je voyais Dieu comme ça et des chaînes vraiment derrière moi qui m'empêchaient d'aller complètement à lui. Et la première nuit, ça a été assez dur. J'ai dormi peut-être 2-3 heures, je me posais plein de questions. Et puis le deuxième soir, ça a commencé dès les premiers instants de louange, où il y a les larmes qui ont commencé à couler. Et c'est vrai que là, je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. C'est, je pleure, enfin, ouais, ça faisait 10 ans, je crois, que j'avais pas pleuré en public. Parce que la dernière fois, c'était un enterrement, je m'en souviens assez. Et là, j'ai hésité à partir. Je me sentais vraiment mal. Et ça pleurait de plus en plus fort et dans les sanglots. Et j'essayais vraiment de me cacher. J'ai mis mes mains sur les yeux pour pas qu'on puisse voir. Simon a à nouveau prié pour moi. Et après, Jonas a prêché. Le thème, c'était que Jésus, il peut effacer toutes les cicatrices. Et là, j'ai vraiment prié pour qu'il brise ses chaînes et que je puisse m'abandonner complètement à lui. Et à la fin, Jonas, il a fait un appel. Je me suis avancé et Michel est venu prier pour moi. Il m'a dit, j'ai comme une image pour toi. Je vois un surfeur qui est sur sa planche, qui n'arrive pas à se lever et qui essaie, mais qui n'arrive pas à prendre la vague. Et ben maintenant, lève-toi et prends cette vague. Et à ce moment-là, c'était vraiment une libération en moi. J'ai vu ces chaînes qui se brisent comme ça dans l'éclat. Ouais, vraiment la joie intérieure, c'est une grande libération, quoi. Donc, merci à tous pour vos prières.
Gloire à Dieu. Alors, nous étions une petite cinquantaine de jeunes là-bas, et puis tous auraient pu rendre un témoignage, mais on n'a pas le temps pour ça. La Bible dit, Jésus a dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et j'essayais de vous préparer autre chose, mais c'était plus fort que moi. Si je veux répondre à ce qui est au fond de mon cœur, j'aimerais aussi à vous, parce que je me dis que ce n'est pas que pour les jeunes, vous partager ce thème de la gloire de Dieu. Et donc mon message porte sur la gloire de Dieu encore ce matin, mais vous n'étiez pas là, donc vous ne savez pas ce que je vais dire. Même si ça va un peu changer, bien sûr. Il y a des choses qui sont spécifiques pour nous ce matin. Et j'ai donné comme titre à ce message, l'empreinte de la gloire. L'empreinte de la gloire. Je suis convaincu, très profondément convaincu, que Dieu aime nous toucher, puis c'est bien d'être touché par Dieu, de manière, même lorsqu'on s'approche de Dieu, puis qu'on est touché, on vit quelque chose de bien, c'est beau, c'est joyeux, on retourne tout joyeux à la maison, on a été encouragé, on a été boosté, comme on dirait avec les jeunes. Mais je suis convaincu que Dieu veut faire plus que juste nous toucher. Je suis convaincu que Dieu veut nous imprégner de sa présence. Si tu es touché par Dieu, c'est bien, c'est joyeux, c'est cool, hein, comme diraient les jeunes. Mais si tu es imprégné de sa présence, ce sera non seulement bien, génial et cool, mais il va y avoir de la consistance. Il va y avoir quelque chose de solide qui va prendre naissance. Et aujourd'hui, alors que maintenant, ça fait plus de 15 ans que je suis avec Dieu, je le sers de tout mon cœur. Et c'est vrai que, bien sûr, quand on est jeune, on cherche avant tout tout ce qui nous touche, les émotions, les grandes choses. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'en plus de cela, Dieu veut faire une œuvre bien plus profonde que cela. Et il veut amener de la consistance dans nos vies. Il veut amener une maturité dans nos vies. Il veut amener une solidité. Il veut nous rendre, comme nous dirait l'apôtre Pierre, inébranlables. Inébranlables. Et c'est ma prière pour nous aussi en 2013, que l'église de Genève soit une église inébranlable. Mais pour cela, tu as besoin de la gloire de Dieu. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, Jésus exprime une prière juste incroyable. Une prière... Et je vous encourage à méditer chez vous, à l'étudier. Une prière riche en enseignements. Jésus prie cette prière de Jean 17 à son Père céleste à l'égard de ses disciples, pour ses disciples. Il est sur le point de partir. Il sait ce qu'il attend devant. Il sait qu'il y a des souffrances terribles qui l'attendent. Il sait qu'il y a la croix qui l'attend, qu'il y a la mort qui l'attend. Jésus sait toutes ces choses-là. Et bientôt, il sait, il est conscient que les disciples sont livrés à eux-mêmes, que Jésus sera plus là physiquement avec eux. Jésus sera plus celui qui va passer devant eux. Jésus sera plus là celui qui va prêcher, qui va les encourager lorsqu'ils sont découragés, qui va les consoler lorsqu'ils... Il sait que maintenant, même si Jésus a dit « Je vous laisse pas seul, je vous envoie le Saint-Esprit », mais il sait que ce sera plus vraiment la même chose et qu'ils vont devoir maintenant, pour continuer le ministère qu'il a commencé, eux-mêmes passer devant. Et Jésus, dans cette prière de Jean 17, demande toute une série de choses pour ses disciples que Jésus considère nécessaires, indispensables pour la suite du ministère, pour l'accomplissement du ministère. Et je n'ai pas le temps d'énumérer toutes ces choses. On pourrait le prendre, je l'ai fait rapidement avec les jeunes le vendredi dernier. Mais il y a parmi toutes ces choses que Jésus va énumérer, une chose qui résume toutes les autres, une chose qui est à la source de tout le reste. Et il dira dans Jean 17, verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donné voient, soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Donc, quel est le profond désir de Jésus et de Dieu pour ses disciples? C'est que ses disciples voient la gloire de Dieu. Et je crois que cette gloire est à la source de tout le reste. Quant à la gloire, il y a le reste qui est là. Et Jésus parlera de la joie, parlera d'une relation, parlera de la protection, si vous lisez Jean 17. Mais il y a cette gloire qui est importante. Et en d'autres termes, Jésus est en train de prier, entre autres, à ce que ses disciples puissent revenir à la gloire et rester dans la gloire de Dieu. D'après Jésus, la gloire de Dieu est juste indispensable pour accomplir à bien notre mission. La gloire de Dieu, c'est le vêtement de l'enfant de Dieu. C'est le vêtement de l'enfant de Dieu. C'est le seul vêtement. Tu es autorisé, c'est le seul vêtement qui est autorisé à être gardé matin, midi et soir. C'est un vêtement qui est aussi perméable à l'eau. Tu peux prendre ta douche avec. N'est-ce pas extraordinaire? Et cette gloire, c'est comme un vêtement. Et Jésus prie vraiment pour qu'il soit revêtu de ce vêtement. Et la Bible dit, et je l'ai souvent cité ce verset, « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Adam a péché. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché nous prive de la gloire de Dieu. Adam a péché. Donc que s'est-il passé lorsque Adam a péché? Le vêtement de gloire dont il était revêti a été ôté, l'a quitté. Au moment où Adam pêche, il a ce vêtement de gloire qui s'en va. Il est déshabillé de la gloire. Il est dépouillé de la gloire de Dieu. Et lorsque donc Adam est dépouillé de cette gloire, soudainement il y a quelque chose qui se passe. Adam ne sait plus qui il est. Adam, lorsqu'il se regarde, il se voit plus tel qu'il a été créé. Il se voit plus comme le prince. Il se voit plus comme l'enfant de Dieu. Il se voit plus comme le fils de Dieu qui appelait à régner. La gloire a été ôtée. La présence de Dieu a été ôtée. Et maintenant Adam a peur. Adam ne se voit plus comme quelqu'un de fort, mais comme quelqu'un de misérable. Il est tellement mal dans sa peau que Adam sent le besoin de se cacher. Il a honte, il se sent coupable, il comprend conscience qu'il est nu. Et lorsque Dieu vient dans le jardin, lorsque la gloire de Dieu vient, au lieu de courir dans les bras de son Père céleste, il va se cacher, il a peur. Et Dieu dit, et Dieu est face à ce constat terrible, il dit, « Où es-tu, Adam ?» C'est un constat terrible que Dieu fait. « Où es-tu, Adam ? Est-ce qu'il y a encore un leader dans ce jardin d'Éden ? Est-ce qu'il y a encore un prince qui est là? Est-ce qu'il y a encore un homme qui est appelé à régner et à obéir à ma parole? Et Dieu dit, où es-tu? Et constate que l'enfant de Dieu, constate que le prince appelé à régner n'est plus là. Il s'est caché. Et c'est terrible. Lorsque la gloire de Dieu nous quitte, il y a cette identité qui nous quitte. Mais Dieu dit, je veux que mon peuple revienne à la gloire, parce que je veux lui redonner son identité, je veux lui redonner autorité, je veux lui redonner la puissance. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous ce matin. Amen. Rencontrer Jésus pour la toute première fois, c'est comme entrer dans un magasin de prêt-à-porter de grande classe. J'y vais pas souvent moi, c'est trop cher. Mais avec Jésus, j'étais au moins une fois. Tu rentres, quand tu rencontres Jésus pour la toute première fois, c'est comme si tu rentrais dans un magasin de prêt-à-porter de grande classe. Jésus vient vers toi, il t'observe, il regarde tes mensurations, Il te fait tourner, il repart, et puis il revient, mais pas les mains vides. Il revient avec un vêtement qui est juste pour toi. C'est le vêtement de sa gloire. Alléluia, tu pourras le garder. Il ne va pas se salir. Au contraire, il va te rendre pur. Merci Seigneur Jésus de nous revêtir encore ce matin de ce vêtement de la gloire de Dieu. Alors qu'est-ce que la gloire? Comment puis-je la définir? Alors, la gloire, il faudrait bien sûr plus de dimanches pour pouvoir bien l'étudier. Mais la gloire de Dieu, et c'est une définition que je vous donne, on pourrait peut-être aussi le définir encore avec d'autres mots, mais la gloire, je la définis comme ceci, c'est la présence manifestée de Dieu envers ceux et celles qui croient. C'est comme ça que je la définis, selon ma compréhension de la parole et mon expérience. La gloire de Dieu, c'est la présence manifestée de Dieu envers ceux et celles qui croient. La gloire de Dieu, c'est donc la présence de Dieu. Mais la gloire de Dieu, ce n'est jamais la présence de Dieu qui est figée quelque part loin de l'homme. À cause de ce que Jésus a fait à la croix, la gloire de Dieu, pour ceux qui croient, ne sera plus jamais une présence figée loin de ceux qui croient. Mais la gloire de Dieu sera toujours pour ceux qui croient, cette présence manifestée envers celui qui croit et qui vient habiter dans la vie de celui qui croit. À cause de ce que Jésus a fait, il nous a donné accès à sa présence et il a permis à ce que Dieu manifeste sa présence envers nous et en nous, mais seulement à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Donc la gloire de Dieu aujourd'hui, c'est cette présence que tu peux vivre, mais seulement à cause de ce que Jésus a vécu à la croix. Alléluia. Alors, pour bien comprendre, et c'est quelque chose de très simple, le Saint-Esprit m'a aidé pour juste comprendre bien ce qu'est la gloire de Dieu. C'est des choses simples que je dis, mais c'est important. Si la gloire de Dieu, c'est la présence manifestée de Dieu, la gloire de Dieu... Il y a une différence entre la gloire de Dieu et l'omniprésence de Dieu. Juste une petite explication que le Saint-Esprit m'a donnée. L'omniprésence de Dieu, c'est un attribut de Dieu, vous le savez. L'omniprésence de Dieu, c'est cette capacité qui est unique à Dieu. Cette capacité qui appartient à Dieu d'être partout présent avec tout un chacun. Parce que Dieu est omniprésent, il est avec nous ce matin, d'accord ? Parce que Dieu est omniprésent, non seulement il est avec nous ce matin, mais il est avec chaque chrétien qui se réunit à Genève et qui loue le Seigneur. Mais aussi avec tous ceux qui sont en Suisse romande, mais aussi ceux qui sont dans toute la Suisse. Mais aussi avec ceux qui sont en France, au Luxembourg, en Belgique, dans toute l'Europe. Mais parce qu'il est omniprésent, il est aussi avec tous ceux qui dorment peut-être de l'autre côté de la terre. Il est omniprésent. Maintenant, qu'en est-il de ceux qui ne croient pas ? Si Dieu est omniprésent, il est aussi avec ceux qui ne croient pas. Vous êtes d'accord avec ça ? S'il est omniprésent, il est avec nous, mais il est aussi avec celui qui est en train de faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Il est avec toi qui loue Dieu, qui l'adore, mais il est aussi en train d'observer le méchant, celui qui n'aime pas Dieu. Parce que Dieu est omniprésent, donc Dieu est avec les bons comme il est avec les méchants. Il fait pleuvoir la pluie sur les bons comme il fait pleuvoir sur les bons et comme sur les gentils, nous dit le proverbe ou Ecclésiaste. Donc, l'omniprésence de Dieu, c'est cette présence de Dieu qui est partout. La gloire de Dieu, c'est différent. Il y a une nuance. La gloire de Dieu, c'est aussi la présence de Dieu. Mais c'est la présence de Dieu qui va être manifestée envers celui qui croit. Ce mot « manifestation » est très important. C'est la manifestation de Dieu envers celui qui croit. Ça veut dire deux choses. Que la gloire de Dieu n'est pas pour le monde. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, ne va pas dans le monde. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, ne la cherche pas dans le monde. Elle n'est pas dans le monde. La gloire de Dieu est là où il y a la foi. La gloire de Dieu est là où il y a des gens qui prient. La gloire de Dieu est là où il y a des gens qui louent. La gloire de Dieu est là, lorsque la Bible est ouverte et que mon cœur médite la parole. Elle est là. La gloire de Dieu n'est pas dans le monde. Parce que la gloire de Dieu, à cause de ce que Jésus a fait, elle est pour nous. Elle est pour l'Église. Deuxièmement, la gloire de Dieu nous parle aussi donc d'un Dieu qui parle, d'un Dieu qui agit, d'un Dieu qui se manifeste, d'un Dieu qui vient au plus profond de nous-mêmes et qui fait tomber les chaînes, et qui nous libère de l'anxiété ou d'autres choses, et qui nous guérit. Celui qui vit dans la gloire de Dieu ne peut pas s'ennuyer. C'est impossible, parce que Dieu va pas te laisser en paix. Dieu va venir te titiller, Dieu va venir te chercher. C'est la gloire, c'est la vie, la gloire. Donc, la gloire de Dieu est pour l'Église. Et Dieu veut qu'on revienne donc à cette gloire. Amen. Maintenant, quel est donc le but de la gloire? Et j'en suis déjà à mon second et dernier point. J'aimerais terminer mon message vraiment avec ce dernier point qui est très important. Quel est le but de la gloire? Le but de la gloire, comme je l'ai dit aussi au début, ce n'est pas juste d'être touché dans nos émotions. Ce n'est pas juste de passer un moment agréable dans la présence de Dieu. Le but de la gloire, ce n'est pas juste de te faire vivre une expérience mémorable. Le but de la gloire, ce n'est pas juste de te donner des visions et des songes et des révélations. Ce n'est pas juste de te transporter dans des visions divines où tu verras des anges. Le but de la gloire n'est pas juste d'émerveiller le monde par toutes sortes de choses qui attirent le regard plus que le cœur. Toutes ces choses sont importantes de les vivre. Toutes ces choses, on peut y aspirer. Mais ce n'est pas le grand but de la gloire de Dieu. Vous savez ce qu'est le but de la gloire? Et vous savez pourquoi on devrait aspirer de tout notre cœur à vivre la gloire de Dieu? Pas seulement pour vivre des visions ou avoir des visions, pas seulement pour voir un ange, je voudrais tellement voir un ange. J'ai l'occasion d'en voir plusieurs déjà dans ma vie, mais il n'y a qu'une seule personne qui m'a transformé lorsque je l'ai vu, c'est Jésus. Alors recherche Jésus de tout ton cœur. Le but de la gloire, c'est la transformation, c'est l'enracinement des cœurs dans la parole vivante et efficace de Dieu. Le but de la gloire, c'est faire de toi un disciple de Jésus-Christ. Le but de la gloire, c'est faire de toi un enfant de Dieu accompli et prêt pour le combat en 2013. Laisse-moi le dire autrement. Le but de la gloire, c'est de te donner un caractère et une juste attitude. Le caractère, très important. On peut dire d'une personne, et on dit souvent ça, t'as un mauvais caractère. Le caractère, c'est ce qu'une personne est, c'est tout ce qui caractérise une personne et qui s'exprime dans sa manière de penser et d'agir. Le but de la gloire est de te donner un caractère provenant du cœur de Dieu. Le but de la gloire est de faire de toi une personne qui va penser et agir à l'image de Dieu. Un grand leader et pasteur a enseigné ceci. Dans quelques mois maintenant, je me plonge dans les messages sur le leadership. Je suis interpellé par cela, j'écoute toutes sortes de grands leaders. Et voici ce qu'il a dit, pour ceux qui connaissent Miles Monroe. Une armée de brebis dirigée par un lion vaincra toujours une armée de lions dirigée par une brebis. Une armée de brebis dirigée par un lion vaincra toujours une armée de lions dirigée par une brebis. Avoir le caractère transformé par la gloire de Dieu, c'est devenir un lion qui passe devant. Avoir un caractère transformé par la gloire de Dieu, c'est devenir un lion qui passe non seulement devant l'Église, mais qui passe aussi devant le monde, afin d'influencer le monde, pour que le monde ne l'influence pas avant. Alors il passe devant pour influencer et pour faire son cri de victoire et pour appeler les gens à le suivre. Parce qu'il va dans une direction précise, qui est la gloire de Dieu? Comment l'Église aujourd'hui peut-elle avoir un impact avec l'argent? C'est pas suffisant. Avec sa réputation, c'est pas suffisant. Avec des beaux discours, c'est pas suffisant. Avec ses louanges, ses prières, ses dons spirituels, ce n'est pas suffisant. Voici ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Michel, l'impact qui bouleverse et secoue les ténèbres, l'impact capable de toucher des âmes au salut, est un impact qui prend naissance dans un cœur transformé par la gloire de Dieu. Car lorsque ton cœur est transformé par la gloire de Dieu, alors tes prières vont être fortes et puissantes. Alors tes louanges vont être fortes et puissantes. Alors ton action va parler plus que tes paroles. Lorsque ton cœur est touché et transformé par la gloire de Dieu, il va y avoir un impact. Il va y avoir un impact parce que le monde regarde, pas seulement nos paroles, mais regarde aussi nos vies, revoit nos actes, regarde ce qu'il y a au fond de nous-mêmes. Et c'est ça qui va faire la différence. La personne que tu peux devenir en Jésus-Christ, c'est la personne que tu dois rechercher à devenir. Car elle seule a la capacité de changer les choses pour Jésus. La gloire de Dieu, c'est ce dont tu as besoin pour libérer cette personne qui est peut-être enterrée dans des opinions. Mais la résurrection va commencer. Parce que la vérité va venir. Le caractère, c'est donc ce qui fait la différence. Pourquoi Josué et Caleb ont été les deux seuls hommes de leur génération à être autorisés à entrer dans le pays promis? Le caractère. La Bible dit que Dieu parla à Moïse dans Nombre 13, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Tous seront des leaders. » Dieu envoya donc 12 leaders dans le pays de Canaan, avec l'ordre formel d'explorer le pays. Et après, de faire un bilan. Mais ça devait encourager le peuple à entrer dans le pays promis. Les 12 hommes revinrent et firent leur rapport. Les 10 commencèrent à parler. Et ils dirent: « Ouais, c'est vrai, le pays, il est pas mal, il est bon. Il est génial, ok. Mais, le peuple qui habite là-bas, t'as pas vu comme il est grand? Ils nous ont regardés, on avait envie de sauter comme des sauterelles. On était tout petits à leurs yeux. Et puis ils ont commencé à oublier toutes les bénédictions. Ils ont vu les géants qui étaient là. Ils ont dit: mais t'as vu les géants? Alors qu'ils sont en train de parler, que le peuple commence à être découragé et commence à prendre les pierres pour lapider Moïse. Il y a un jeune lion qui va rugir. Ah! Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Montons et allons-y en 2013, on va remporter des victoires. Alléluia !» Caleb était un lion qui se trouvait devant. C'était un jeune homme transformé par la parole de Dieu qui provenait de la gloire sur la montagne avec Moïse. Tous ont vu la même chose. Les 12 ont vu le pays. Les 12 ont vu les géants, mais lorsque les 12 reviennent, 10 entre les 12 disent: « N'y allons pas, les gens sont comme des géants !» Les 2, par contre, viennent et disent: « Allons-y, les fruits sont géants !» Et à cause de cela, Dieu dit à Moïse: les 10 n'entreront pas dans le pays promis, mais les 2, Caleb et Josué, entreront dans le pays promis. Et Dieu redira dans Nombre 14, 24, si tu veux l'afficher, Nombre 14, 24. « Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Qu'est-ce qui a fait la différence entre les 10 et les 2? C'est le caractère. La personne que tu es et qui a une manière de penser et d'agir à l'image de Dieu, c'est cette personne-là qui va faire la différence. C'est cette personne-là que Dieu va utiliser. Le caractère de l'Église évangélique de réveil de Genève, voilà ce qui peut faire la différence. C'est ton caractère. Si tu as un mauvais caractère, il est temps de laisser Dieu de le changer. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, car seule ta gloire peut changer ma vie, changer mon cœur, changer mon caractère. Encore une dernière pensée. Pourquoi l'humanité a été plongée dans le chaos et le péché? À cause d'un homme qui, au moment opportun, n'a pas manifesté le caractère de Dieu. C'est pour ça que l'humanité est tombée dans le péché. Les yeux étaient rivés sur un homme. Un homme qui aurait dû, au moment opportun, manifester le caractère de Dieu. Mais à cause de sa faiblesse de caractère, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que peut avoir le caractère? Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie encore un homme qui cette fois-ci aura la force de caractère pour nous ramener à la gloire. Un homme, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un autre homme, quiconque croit et invoque son nom est sauvé. Voilà l'impact. Un homme qui manifeste le caractère de Dieu. Les choses changent, l'impact est terrible. Je voudrais vraiment vous faire prendre conscience de l'impact que vous pouvez avoir dans la vie des autres, de l'impact que vous pouvez avoir autour de vous. C'est juste incroyable. Alléluia. Jésus est vivant. Ça me rend tout chose. Hein. Vous savez, là, je suis un effort pour parler. Je vais passer les 2-3 prochaines heures à tousser comme un malade, mais... Ah, vous avez compris le message, alléluia. La question est, je termine avec ça, je l'ai dit au moins 5 fois ça, mais je termine vraiment avec ça. La question est, que vas-tu faire maintenant? La question est, vas-tu aspirer à la gloire de Dieu? Aspirer à la gloire de Dieu, c'est aspirer à une transformation. Que vas-tu faire? Avoir un caractère de Dieu, je crois que c'est important que je le dise aussi ça. Avoir le caractère de Dieu, ça ne veut pas dire frapper sous la table quand tout va mal. Il y a des gens qui veulent tout régler en frappant sous la table. Ce n'est pas user de la colère, de l'intimidation pour régler les choses. Ce n'est pas user de la manipulation. Ce n'est pas ça avoir le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, c'est parfois sourire lorsque tout va mal. Moi, je vous dis, ces derniers mois, j'ai appris à sourire. C'est parfois accepter des injustices. Mais si je dois vivre une injustice, sachant que j'ai fait ce qu'il fallait, alors je rends gloire à Dieu. Je ne vous dis pas toutes les petites toiles, toutes les petites tuiles, qui m'est arrivée. Depuis mai, ça n'arrête pas. Je dis à ma femme, il nous apprend vraiment à sourire, le Seigneur. À chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, vous savez qu'en parallèle, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Juste le camp de ski. Mais il y a encore eu plein d'autres choses qu'on peut vous rendre témoignage. Dernièrement, ma voiture qui tombe en panne. Souris, Michel. Dieu veut changer ma voiture. Alléluia. Dieu est grand. Et veut faire des grandes choses encore dans vos vies. On prie. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Seigneur, je veux vraiment te remercier du plus profond de mon cœur parce que tu es un Dieu glorieux. Tu es un Dieu tellement puissant. Seigneur Jésus, je prie vraiment pour que ta gloire puisse éclater dans ce lieu. Je prie, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse aspirer à cette gloire de Dieu, Seigneur Jésus. Une gloire qui va nous amener dans une profondeur, dans une intimité avec toi, Seigneur Jésus. Père, je te rends gloire, parce qu'avec toi, on peut faire des progrès. Avec toi, on peut avancer. Avec toi, Seigneur Jésus, il y a toujours une solution. Avec toi, Seigneur Jésus, il y a toujours un secours. Et je prie vraiment pour que ta gloire puisse reposer sur nous maintenant avec puissance. Quel que soit ton souci, quel que soit ton problème, quelle que soit ton inquiétude, la gloire de Dieu est capable d'élever tes pensées au-dessus de la puissance de la chair, au-dessus des désirs de la chair, au-dessus des inquiétudes de la chair. La gloire de Dieu est capable d'élever ta pensée sur Dieu et Dieu seul. De la gloire, il y a une parole qui est proclamée. Comme Moïse est monté dans la gloire, la Bible dit que Dieu appela du cœur de la gloire, Moïse a entré et a pénétré dedans. Et là, Dieu lui donna ses instructions. Dieu veut donner à plusieurs pour l'année 2013 ses instructions. Il veut donner des paroles précises. Il veut révéler sa volonté. Mais ces instructions, elles sont au même endroit que là où Moïse les a trouvées, au cœur même de la gloire. Une parole révélée qui fait toute la différence, qui touche nos cœurs et nos esprits et qui allume un feu qui va faire juste là toute la différence. Seigneur Jésus, je prie dans le nom de Jésus pour que ta gloire puisse venir sur nous, ta gloire puisse nous toucher. Il y a des gens ici qui sont malades dans leur corps. Je prie maintenant vraiment que tu puisses vivre cette gloire de Dieu dans ta vie et dans ton corps. Que Dieu puisse toucher ta santé. Seigneur Jésus, manifeste-toi dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a ici dans cette salle des gens, des peuples, un peuple de Dieu, un enfant de Dieu, une fille, un fils de Dieu qui a soif de plus dans sa vie, qui a soif de la gloire de Dieu pour 2013, qui disent ce matin, Seigneur Jésus, je veux que mes résolutions soient des résolutions fondées sur toi. Je veux que mes résolutions soient tes résolutions. Seigneur Jésus, est-ce qu'il y a ici un peuple, une personne qui, au fond de son cœur, a une soif de la gloire de Dieu et qui dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Si c'est ton cas, est-ce que tu peux juste lever ta main rapidement? Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus, presque toute la salle lève la main. Merci Seigneur Jésus, vous pouvez baisser vos mains. Est-ce qu'on peut juste se lever ensemble? Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens nous toucher maintenant. Reste dans cette soif, reste dans cette soif, reste dans cette présence de Dieu maintenant. Dans le nom de Jésus, que la gloire de Dieu puisse venir sur toi et te toucher et te transformer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu sais, alors que tu es dans cette salle, tu sais, dit le Seigneur, que ton caractère a besoin d'être transformé. Et c'est vrai que c'est une parole qui pourrait peut-être interpeller plusieurs. Et tu dis toi-même, j'ai un problème avec la colère. J'ai un problème avec la colère. J'arrive pas à me débarrasser de cette colère. Elle est plus forte que moi. À chaque fois, elle monte. Et puis, c'est elle qui me dirige. Le Seigneur, je vois le Seigneur qui touche ta vie et qui touche cet aspect de la colère et qui dit, maintenant, j'adoucis ton cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a de l'inquiétude aussi dans le cœur de plusieurs. Tu es inquiète par rapport à 2013. Tu dis, mais comment je vais faire pour 2013? Il y a tellement de choses. Et on a entendu des prophéties qui allaient aussi plus particulièrement pour certaines personnes. Et je prie maintenant aussi pour que la gloire de Dieu puisse te toucher, toi qui es là et qui es dans des inquiétudes, dans le nom de Jésus. Il y a ici comme des grands-mamans qui sont inquiètes pour leurs petits-enfants, je ne sais pas, pour leurs enfants. Il y a comme une inquiétude qui est là. Et Seigneur voudrait aussi t'apaiser et te dire, c'est comme si tu vis, il y a comme un fils prodigue, il y a comme des enfants qui sont éloignés. Et Dieu dit, je suis encore le Père qui va attendre, qui observe, et ma grâce est avec tous ceux qui m'ont connu, mais qui se sont éloignés. Je suis encore avec ces gens qui se sont éloignés. Ne t'inquiète pas, tout ce que je te demande de faire, c'est de continuer de prier, d'intercéder pour ces gens. Et je te demande juste de croire que je suis encore le Dieu qui est capable de chercher ceux qui sont plus profonds des puits et de les remonter par mes cordages d'amour. Fais confiance au Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Souffle Jésus, Dieu veut renouveler et remplir du Saint-Esprit. Encore vendredi, j'ai eu l'occasion de voir la plénitude du Saint-Esprit dans la vie de certains jeunes. Saint-Esprit, viens et touche et visite dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 Seigneur Jésus. Merci Seigneur, je vais laisser la suite. Alléluia, mon frère Luc. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur Jésus.